Bonjour, ici Chantal Lavoie. Bienvenue à Aime l'été, notre dernière émission de la semaine. Il nous en restera une autre semaine seulement pour compléter notre saison estivale ici même à Canal M. Et aujourd'hui, jusqu'à 13h, invités et chroniqueurs se joignent à moi autour de sujets comme la poésie, mais aussi on rencontre un auteur qui a beaucoup à dire et à faire. C'est un touche-à-tout, comédien, acteur, chroniqueur, animateur de cabaret, conférencier, formateur et finalement grand parleur, mais certainement pas petit faiseur. Il sera aussi question de la routine, et oui, la routine pour mieux en sortir et s'éveiller à la vie. Voici votre émission « Aime l'été ». Et oui, aujourd'hui, on rencontre le comédien et auteur Stéphane Crête, qui a publié récemment « Bien faire et se tenir en joie », un recueil de textes qu'il a écrit entre 1997 et 2022. Aussi, à l'émission, on reçoit notre chroniqueuse du vendredi, José Blondin, psychologue au service des aînés. Avec José, on va tâcher de sortir de cette fameuse routine, parfois sécurisante, mais qui peut aussi nous faire tourner en rond. Mais d'abord, dans un instant, j'accueille Mélissa Ferron, éditrice de la revue littéraire Nyx, une revue littéraire montréalaise et indépendante qui en est à sa 17e édition. Pour la prochaine heure, suivez-nous à Aime l'été! Et je remercie Catherine Bourderon à la recherche, hein, je tiens à la remercier tout de suite, hein, et puis Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. J'accueille à l'instant notre première invitée, Mélissa Ferron, co-éditrice de la revue poétique Nyx. Bonjour!
Bonjour!
Et déjà 17e édition, oui?
Oui, on prépare notre deuxième numéro, là, il est sous presse, donc oui.
Alors ça, le prochain va sortir quand?
Puisqu'il est à l'imprimerie, ça devrait sortir début septembre.
Ah,
on
d'accord.
On confirmera la date.
Eh bien, on va l'attendre avec grande impatience. On dit que la poésie, c'est ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qu'on désire et ce qui arrive souvent. Ça, c'est Jacques Prévert qui disait ça. Alors oui, la poésie qui est au cœur de votre revue, Nyx. Nyx, qu'est-ce que ça veut dire au juste? D'où vient le nom?
C'était un nom qui a été choisi, en fait, c'est le nom que porte la déesse du chaos et de la nuit, donc ça correspondait vraiment au projet de départ du collectif Nyx, qui était en fait rattaché à rien, qui était en fait les membres du collectif au départ étaient vagabonds dans leur formation en cinéma et en littérature, donc ils trouvaient que de prendre le nom de la déesse du chaos, ça correspondait très bien à leur projet littéraire. C'est court aussi, c'est très facile à retenir.
Exact. Et puis bon, vous parlez de chaos, c'est qu'en fait, c'était vraiment bon un collectif et c'était les membres seulement. Et maintenant, vous aviez, en fait, on avait besoin de créer quelque chose d'un petit peu plus encadré, là, finalement.
Exact. Ouais. Au départ, effectivement, c'était 11 étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal qui étudiaient en écriture de scénario et création littéraire, qui ont décidé donc de former un collectif. Donc, au départ, c'était vraiment un collectif et non une revue. Donc, ils publiaient leurs propres textes. Donc, il n'y avait pas nécessairement de cohérence au sein de cette publication-là. Il n'y avait pas de ligne directrice. Et donc, deux ans plus tard, Victor Bégin et Cynthia Massé, les cofondateurs de la revue Nyx, ont donc décidé d'en faire une revue où il y aurait des choix éditoriaux, des sélections de textes de gens qui ne faisaient pas partie de l'équipe. Ça, d'ailleurs, c'est un des critères. Quand on travaille chez Nyx, on ne publie pas nos propres textes. C'est bien important pour nous de ne pas faire d'autopublication.
Donc, il y a un code d'éthique, si on veut. Là.
Oui, quand même. On en a un.
Oui.
Et donc, ça fonctionnait par accès de texte à la revue. Donc, on recevait des textes de gens de l'extérieur. Et il y avait un travail éditorial qui était fait pour assurer une certaine cohérence.
C'est ça. Donc, choix éditorial et puis un comité de sélection aussi. Ça, c'est important pour sélectionner les auteurs.
Exact.
D'ailleurs, vous les choisissez comment?
Ça se fait de façon, en fait, les textes sont anonymisés. Il n'y a pas le nom de l'auteur ou de l'autrice qui apparaît. Donc, c'est
Ah,
tout à fait anonyme.
c'est
Les gens
déjà, oui,
envoient ça par
intéressant.
courriel suite à un appel de texte qui tourne autour d'une thématique. Et donc, on a une semaine comme comité de lecture, à peu près une semaine, 2 semaines pour lire tous les textes qu'on reçoit. Et on les commande et on s'assoit en équipe de comité de lecture avec l'équipe éditoriale et la direction. Et on fait donc les choix de ces textes-là en fonction aussi. Des fois, on va avoir par exemple, deux poèmes qui sont très bons, mais qui se ressemblent beaucoup. Donc, nécessairement, on va en prendre qu'un parmi ces deux poèmes-là. On va prendre des textes qui se répondent aussi entre eux pour vraiment faire un numéro très complet, cohérent, avec une variété, parce que oui, la poésie est quand même essentielle chez Nyx, mais on publie aussi de la prose, de l'essai, on pourrait avoir aussi des textes dramatiques, donc on publie vraiment des textes
C'est
de
ça, du
création
théâtre, c'est ça,
littéraire.
toutes sortes de. Ça peut être de la fiction, ça peut être toutes sortes de choses. Et puis,
Exact.
effectivement, donc depuis 2017, là, c'est vraiment une revue de création littéraire qui
Oui.
vise quand même à offrir, c'est ça, un espace accueillant, inclusif, exploratoire pour la relève québécoise aussi.
Oui, tout à fait. Parce que, en fait, à part les revues de création littéraire universitaire comme Le Pied, Grand Espace, Adicam, etc., c'est pas facile pour un auteur, autrice émergente, d'être publié. Puis là, quand je parle d'émergent, je parle pas nécessairement de jeune. C'est quelqu'un qui débute à écrire. C'est très difficile
Exactement, quel que soit l'âge, oui.
Exact, parce que certaines revues reçoivent une quantité phénoménale de textes. Donc, on parle de centaines de textes, donc c'est très difficile de se démarquer dans ce lot-là. Certaines revues fonctionnent par invitation, on se cachera pas. Donc, Nyx et en fait d'autres revues indépendantes offrent cette possibilité-là pour ces personnes-là
C'est
d'être
ça, c'est
publiées
très
pour une première
démocratique.
fois. Oui, tout à fait.
Ouais.
On veut que ça soit anonyme, on veut avoir une variété, on a des auteurs, autrices d'âges différents, d'horizons différents. C'est très important pour nous d'assurer cette diversité-là au sein de la revue.
Exactement. Donc, ben c'est ça, parce que c'est très important d'avoir une tribune, d'être publié, au fond, pour un auteur. Et c'est ça, se soumettre à tout ce processus éditorial, finalement. Ça, c'est un aspect important, du travail de l'auteur aussi.
Oui, ben en fait, si pour obtenir des subventions, soit du Conseil des arts et des lettres du Québec ou celui du Canada, pour qu'un auteur soit considéré comme professionnel, il doit avoir 3 publications en revue ou avoir publié un roman de plus de 70 pages. Puis là, on ne parle pas d'autopublication. Donc, nous, on permet à ces gens-là d'avoir peut-être une première publication, voire une deuxième, une troisième, et d'avoir, bon, à ce moment-là, peut-être accès à des subventions qui, sinon, on ne les a pas. Donc,
C'est ça.
j'espère qu'on aide justement à ces gens-là de pouvoir avoir une certaine visibilité puis d'être publiés.
Mais sûrement, il existe une version québécoise de Vivre l'humanité, comme l'a affirmé Gaston Miron. Alors, bon, je cite un article, et puis en fait, est-ce qu'il en est de même avec la poésie, Mélissa Ferron? Est-ce qu'il y a une façon toute québécoise de faire de la poésie? Je veux pas faire une. Enfin, c'est peut-être une question qui amène une longue réponse, mais enfin, de façon spontanée, là, que diriez-vous à propos de ça?
Je ne sais pas s'il y a une façon québécoise de faire de la poésie. Je dirais qu'il y en a certainement une de faire de la littérature au sens large ou de faire des arts. L'art est une façon, je crois, justement, de tendre la main vers l'autre, de poser un regard, une réflexion sur notre société. Donc, nécessairement, ce qui secoue notre société québécoise, je crois, va transparaître en poésie, en écriture, dans nos arts. Donc, oui, forcément, j'imagine, il doit y avoir une façon de faire une poésie
Oui.
québécoise, avec notre oralité qu'on va sentir chez certains auteurs, certaines autrices. Donc, on va retrouver du joie, des québécoisismes, on va retrouver du franglais. Donc, je pense que ça vient émailler justement la poésie de nos poètes ici.
C'est ça, donc on peut dire que la poésie, il me semble en tout cas que la poésie québécoise est devenue très vigoureuse là, parmi
Oui.
les poésies de langue française.
Oui. Je crois que, en fait, ben, c'est pas juste au Québec. Je crois que c'est vraiment un phénomène mondial avec, par exemple, la popularité du slam.
C'est ce
On
que
pense
j'allais dire,
seul.
oui, chez les jeunes, c'est
Exact.
ça. Ils ont retrouvé finalement un peu ils ont redécouvert la poésie ou découvert la poésie à travers le slam.
Oui, parce parce qu'on vient de leur montrer, parce que moi, personnellement, à l'école, la poésie qu'on m'enseignait, c'était Rimbaud, c'était Baudelaire, c'était Apollinaire, et ce qui est très bon, mais il n'y a pas que ça. Et c'est des années plus tard que j'ai découvert que, ah, oh, mais il y a autre chose. Et je lisais dans un article où c'était un poète qui disait, mais la poésie, c'est comme la musique. Si tu n'aimes pas tel style musical, ben il y en a d'autres. Et je pense que la poésie, c'est ça aussi. Si tu n'aimes pas la poésie en vers un peu plus classique ou plus lyrique, mais il y a autre chose. Il y a le slam, il y a du rap à la limite qui peut être aussi très poétique. Il y a des poésies contemporaines qui sont beaucoup plus près du quotidien où il y a une oralité. Et je pense que justement, le slam, qui est peut-être un peu plus accessible aux jeunes, leur a montré que « Ah, mais je peux faire de la poésie comme ça, comme je parle. » Il y a donc eu, peut-être, avec les dernières années... une évolution, mais une démocratisation, je dirais. On pensait quand on demande à des gens si tu lis la poésie, on dit bah non, moi je comprends pas ça, c'est réservé à une certaine élite, et c'est pas vrai. Ça peut être beaucoup plus large que ça. Ça peut s'adresser à un large
public.
Donc, oui,
exact.
Que juste une certaine élite, parce que c'est considéré comme quelque chose de très hermétique.
Tout à fait. Et puis, les thématiques aussi, en fait, les thématiques ont évolué. La poésie au Québec s'est transformée. Bon, les thèmes, par exemple, c'est sûr que si on compare avec les années 60, là, où on exprimait à cette époque le destin collectif là, d'un peuple, là, bien sûr, il y a eu toutes sortes de... On pense à Michel Lalonde et à Speak White. Souvent, nous, on a... Enfin, ma génération, en tout cas, on a grandi avec ça un peu, avec aussi dans les années 70, bon, les femmes qui entrent en littérature en grand nombre. Et puis bon, là, ça va être des textes peut-être un petit peu plus, des thématiques plus féministes. Alors, la poésie devient parfois un manifeste, en quelque sorte. Et puis bon, ça exprime l'air du temps, en quelque sorte, ouais.
On a peut-être une poésie effectivement plus intime qui va parler, j'en parlerai un peu plus tard, mais d'Alizée Goulet dans son recueil ennuagé qui va parler de troubles alimentaires, alors que dans les années 70, on avait peut-être justement une poésie plus revendicatrice de tout un peuple en fait qui voulait avoir l'indépendance et donc qui était plus politique.
Oui, en effet.
Mais là, on est plus près de l'intime. Et ce renouveau-là en poésie, c'est d'ailleurs mentionné dans l'anthologie actuelle des femmes au Québec, passe par des voix féminines.
Ah bon?
Beaucoup de voix aussi autochtones, Natacha Canapé-Fontaine.
Tout à fait, c'est vrai.
Joséphine Bacon, mais ça passe par des femmes.
Oui, alors donc, il y a une transmission également de la culture à travers la poésie.
Oui, tout à fait. C'est Diane Régimbald qui dit dans le dernier Lettre québécoise ou celui du printemps que c'est une main tendue vers l'autre. C'est au-delà du intergénérationnel. C'est vraiment, il y a une transmission, pas seulement du vocabulaire, mais d'une réalité personnelle à la réalité de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment comme une main tendue. Puis j'aimais l'image qu'elle faisait de ça.
Mm-hmm.
Vraiment, il y a une transmission de plein de choses, effectivement, au niveau de la poésie, puis toujours de façon plus large, en écriture, puis dans les arts, je crois, ça ouvre beaucoup à l'univers de l'autre, à sa sensibilité, puis je pense que si moi, je lisais seulement des choses qui correspondent à mon quotidien, bien, je me fermerais beaucoup de réalités, malheureusement, auxquelles j'ai pas accès, parce que je suis une femme blanche de 40 ans, donc je comprends pas, par exemple, la réalité que dépeint Gabrielle Bouliane-Tremblay dans son roman « La fille d'elle-même ».
C'est ça, cette prise de parole, elle est très importante, alors, évidemment,
oui.
Et puis bon, c'est ça, cette poésie-là, elle évolue, et avec, effectivement, comme vous dites, peut-être des femmes qui prennent la parole de plus en plus et qui, en fait, nous ouvrent à différentes réalités, à une diversité également. Alors, c'est très, très intéressant, très dynamique. Ça vous tenterait peut-être de nous lire quelque chose?
Oui, en fait, j'ai sélectionné trois textes. Vous me direz si on a le temps
C'est-à-dire qu'on a quelques minutes encore, alors je peux effectivement vous laisser aller. Et puis bon, dans la mesure où c'est raisonnable, bon, ben écoutez, c'est vous qui évaluez la chose. Je vous laisse aller.
D'accord. Alors, la première poète que j'ai sélectionnée, c'est une poète que j'adore. C'est Alizée Goulet. C'est une autrice qui a fait ses études en littérature. Elle a d'ailleurs publié l'année passée l'excellent recueil ennuagé dont je parlais tantôt, qui traite de troubles alimentaires, et elle va faire paraître le 12 septembre son deuxième recueil, et le titre est magnifique, c'est « La tiédeur des sépultures ». Donc, l'extrait que je vais vous lire provient du poème « Rattraper Octobre » qui est paru dans le numéro 5 de la revue Mix. Donc, « Rattraper Octobre » d'Alizée Goulet. Les mains perdues sous les pommes, à l'épicerie, l'automne s'annonce avec ses sucres, mûris longuement, et les soleils de l'été s'y reflètent, avec eux la rougeur du temps à grandir ensemble. L'abondance est charmante, les doigts s'enfoncent, fouillent dans le parfum du verger. Je touche tes cheveux et la lumière et la vie au fond du panier. Je brasse des instants ronds d'enfance. Teintement creux, le petit toc, un peu mou, les fruits dégringolent, deux pommes et une autre, les pelures cireuses. J'écoute les regroupements, les grands événements intimes qui répandent les sons. Je veux, d'un coup, j'ai envie de tenir ta main. Et ça n'a pas lieu. Dans les yeux, au coin, des pommes vertes, jaunes, elles me racontent ta maison ailleurs. L'amitié cliquée une fois, ton parcours cadencé. Loin, je t'attends immobile. Et c'est encore l'automne, les manteaux ouverts et gonflés, les pommiers à l'ombre du bois, leur feuillage vert mais bleu, une course entre nous pour trouver la fin du verger. Mais les pommes, à l'année pâteuse, vertes, jaunes, je cherche sans savoir, non, comment m'y retrouver? Là, comment fuir dans l'allée, sous les derniers fruits empourprés, retourner octobre jusqu'aux dents froides, aux grimaces, aux bouchées croquantes. Alors, c'était un poème d'Alizée Goulet, enfin un extrait.
Bon, alors vous étiez de saison, quoi. Avec ce poème.
Oui,
ben rapidement, peut-être si vous en avez un petit peu plus court, peut-être.
Oui, ben je vais y aller. J'ai parlé beaucoup de voix féminine. Je vais y aller avec Kevin Menard, donc parce que je trouve ça quand même important. Il y a de la théorie aussi du côté des voix masculines, donc qui est excellente. Donc Kevin Menard, ça a été notre auteur en résidence durant l'année littéraire 2021-2022. Il a publié dans diverses revues littéraires et il travaille en milieu communautaire en santé mentale. Donc, l'extrait provient du poème « Les battements » qui a paru dans la revue numéro 15 de Mix. C'est dans ta façon de m'arracher à la poigne du froid, de mettre sur pause la fournaise patentée sous les couvertures. C'est peut-être aussi dans ma façon de toujours sortir le soir pour me transir les os à même la brise. Dans notre façon de revenir sur place pour préparer les heures tièdes de notre microclimat. Je creuse ton souffle jusqu'à la gorge, cherche le rôle dans les plis de ta nuque. Je ne sais pas tout à fait comment nous étendre à volonté, et tu ne sais pas tout à fait comment justifier nos actes. Les tisons russes des balivernes se pâment fervent devant notre gage de combustion. Combien de fautes y a-t-il? Aucune. À ne pas savoir dire combien de temps ça nous prend. J'avais tort de m'endeuiller des passions de passage. Je ne savais pas vraiment tout le poison qu'on déploie. Pourtant, tu rebâtis les mots qu'on me martèle sur la tête, ceux qu'on utilise pour me peindre sombre, désarticulés sur une toile d'ébène. Tes coups à ma poitrine donnent une priorité au battement et dans une explosion sémantique, on périt enfin. Voilà.
Ah, c'est très gentil à vous. Alors, Mélissa Ferron, coéditrice de la revue Poétique Nyx. Alors, évidemment, on va trouver ça dans toute bonne librairie indépendante, notamment. Alors, allez sur le site de la revue Nyx. Hein. Vous aurez tous les détails là-dessus pour se procurer la revue. Alors, on attend le prochain numéro bientôt, là, dans le courant du mois de septembre. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. On va mettre la date exacte. On va avoir un lancement début septembre. Donc, on a une page Facebook, on a une page Instagram où on a ces informations-là qui vont être diffusées prochainement.
Alors, c'est ça. Donc, on s'intéresse de plus en plus, je pense, à la poésie. D'ailleurs, il y a plusieurs événements qui s'intéressent à la poésie, festival et tout. Alors, on a le Festival de poésie de Trois-Rivières, notamment. Alors, mm-hmm. Il y a plein d'événements dans le courant de l'année. Alors, on continue à s'intéresser à la poésie. Merci, Mélissa Ferron.
Merci de l'invitation.
Ça a été un plaisir de vous accueillir.
Merci.
Au revoir.
La glaise, le sanglot, je m'avance ras et gras du pas de l'escargot. À mon cou, je porte comme une amulette un vertical néant, sentant la glaise, le sanglot. Sentant la glaise, le sanglot. J'ai aussi que j'ai la vie comme blackout, sommeil blanc. C'est mon affaire, la terre et moi. La terre et moi, flanc contre flanc. C'est mon affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. De partir avec eux jusqu'à perte de vue. Le monde ne vous attend plus, il a pris le large. Le monde ne vous entend plus, l'avenir lui parle. La terre et moi. La terre et moi, flanc contre flanc. C'est mon affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. La terre, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir.
Sur un poème de Gaston Miron, c'était Jim Corcoran qui chantait « Sentant la glaise ».
Ah ben justement, on en parlait tout à l'heure de Gaston Miron. Merci Mathieu Tessier. Voilà, on va accueillir maintenant José Blondin, psychologue au service des années, que l'on retrouve tous les vendredis. Alors ce sera notre avant-dernière chronique. Bonjour José.
Bonjour Chantal.
Alors il va en rester une la semaine prochaine. Alors bon, on va profiter de celle-ci, en tout cas chose certaine. Et puis on va tenter de sortir de notre routine. Pour s'éveiller à la vie, c'est la thématique d'aujourd'hui.
Tout à fait.
Eh bien oui. Alors, parce que la routine, hein, José, ça peut paraître très sécurisant, mais à la longue, ça peut aussi finalement faire en sorte que la vie est pas mal moins intéressante aussi.
Exactement. En fait, la routine de tous les jours, tu l'as très bien dit, Chantal, peut être très sécurisante. Puis, il faut faire, faut nuancer, certaines personnes peuvent en avoir besoin plus que d'autres. Toutefois, faire des petits gestes ou des actions hors de notre routine peuvent contribuer à vous maintenir alerte et apprécier la vie autrement aussi.
Oui, c'est ça. Donc, s'adapter. En même temps, ben, on a parlé tout au long de l'été là, de notre capacité à s'adapter, à faire des changements. Enfin bon, sur le plan cognitif, en tout cas, c'est sûr qu'en vieillissant, c'est très important. Donc, effectivement, être capable de changer une routine, c'est mieux finalement.
Nous avons abordé la semaine passée, Chantal, la programmation de notre cerveau pour réaliser ses rêves. Mais notre cerveau aussi, il peut contribuer à nous garder alerte et à apprécier l'instant présent et là, simplement, entre guillemets, en le déprogrammant. Surtout, comme tu le mentionnes, en vieillissant, et encore une fois, si on veut retarder certaines maladies dégénératives, il est important d'effectuer des petits exercices, excuse-moi, qui vous apportent de nouvelles perspectives et ça nous garde alerte, cette déprogrammation-là.
C'est ça, effectivement, très important tout ça. Et puis bon, de quelle façon on va faire ça? Je sais que tu vas nous donner des exercices un peu plus tard, mais bon, alors c'est ça comment... en fait, parce que c'est nos repères parfois qu'on a à travers la routine, hein? Et puis quand on change de routine, ben peut-être qu'on a l'impression d'être un peu déstabilisé, de perdre ces fameux repères.
Tout à fait. Mais as-tu déjà constaté, Chantal, que lorsqu'on prend un nouveau chemin pour nous rendre quelque part, le trajet nous semble plus long qu'au retour?
Ben assurément. Bien sûr, quand on ne connaît pas le chemin, c'est bien entendu.
Voilà.
Ouais,
c'est justement notre cerveau qui te joue des tours. Parce que le fait de prendre un nouveau trajet, ça permet à votre cerveau de rester alerte. Et lors du retour, ben il a déjà tous ses repères, donc tu as l'impression que la route du retour est plus rapide. Parce qu'en fait, il n'y a aucune nouvelle stimulation au niveau de ton cerveau.
Ah ben oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, on est moins en vigilance, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vigilance au retour. Puisqu'on, en fait, en principe, on l'a fait une fois, ce qui n'est pas le cas, bon, quand on part à quelque part et qu'on ne connaît pas le chemin, forcément. Mais oui.
C'est la même chose, dans le fond, c'est sûr que si on change une petite routine, mais là, attends, on va se sentir moins à l'aise finalement. Et après, ça va devenir une habitude, tu sais. Donc, il faut se donner quand même un certain temps pour modifier ses habitudes. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé de tout changer pour allumer ses sens puis maintenir son cerveau actif.
Oui,
il est important que chacun puisse respecter son rythme et son besoin de routine parce qu'il y en a qui en ont besoin plus que d'autres aussi.
Oui, parce que ça peut être effectivement bien déstabilisant pour beaucoup de gens, comme tu l'as dit. Alors, certains en ont plus besoin que d'autres. Alors, c'est sûr que là, tu vas nous donner un petit peu tantôt, la manière de faire les choses, peut-être des trucs, tout ça. Et puis, on va aller voir aussi l'ensemble des bénéfices que ça peut apporter aussi à changer notre routine. Alors, écoute, on va tâcher d'en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est ça. Comment se sortir de sa routine sans être déstabilisé? C'est de ça dont tu vas nous parler tout de suite après la pause. Alors, je te garde avec moi.
Parfait.
À tout de suite.
Aime l'été.
Et deuxième moitié de l'émission, je suis avec José Blondin, psychologue au service des aînés, et on parle de sortir de sa routine pour s'éveiller à la vie. Et oui, rebonjour José. Alors, comment sortir de sa routine sans être trop déstabilisé? Alors, on a parlé bien sûr de cette d'arriver à changer notre routine un tant soit peu pour effectivement peut-être s'adapter enfin à de nouveaux changements. Et puis, je pense aussi que ça peut être une façon d'accueillir la spontanéité.
En fait, un changement d'habitude, aussi petit soit-il, a énormément de bénéfices. Oui, de sortir cette spontanéité-là, mais surtout de vous connecter dans l'instant présent parce que ça vous amène dans un état de pleine conscience. Et il y a beaucoup de bénéfices en vieillissant à le fait de développer cet état de pleine conscience-là.
Exactement. Mais comme tu le disais avant la pause, on n'est pas obligé de tout changer encore là pour allumer nos sens ou enfin maintenir notre cerveau actif.
Exact. L'idée ici, là, c'est pas de se générer de l'anxiété, là, c'est pas ça du tout. C'est davantage de faire des petits changements qui vont vous permettre de redécouvrir la vie finalement aussi autrement. Parce que il faut voir, il y a beaucoup de bénéfices dans cet état de pleine conscience-là. T'sais, notamment, on a beaucoup parlé de l'anxiété, mais le fait, ça réduit le stress aussi. Parce que quand on est dans un état de pleine conscience, on est connecté dans le moment présent et qu'on arrête de s'inquiéter du passé, on arrête de s'angoisser pour le futur.
C'est vrai. Et puis bon, on dit que ça améliore aussi la concentration.
Être conscient du moment présent améliore sa capacité à se concentrer sur des tâches qui sont en cours. Et là, ça nous garde alerte parce qu'au lieu de faire des tâches machinalement, on est présent et qu'on reste stimulé par ce qui se passe autour de nous aussi. Donc là, on stimule l'ensemble de nos sens, qui vient aussi très important en vieillissant.
Et comme je le disais, accueillir la spontanéité, ça veut dire aussi qu'en changeant comme ça notre routine, c'est que ça nous amène dans cette pleine conscience du moment présent et ça nous permet aussi de savourer les petits plaisirs de la vie.
Tout à fait, il y a une appréciation accrue parce qu'on est présent finalement. Et là, à force de le pratiquer, on va le voir, là, ça va augmenter nos sensations, les odeurs, les goûts, bref, toutes nos expériences quotidiennes aussi, parce que là, on va découvrir autre chose finalement.
C'est ça, bon. Et puis finalement, on peut, tu nous parles aussi de que ça augmente la résilience. De quelle façon?
En fait, c'est quand on est conscient du moment présent, ça vous aide à accepter les situations telles qu'elles sont. T'sais, au lieu d'anticiper, d'avoir de l'angoisse aussi, ouais, ça renforce notre capacité à faire face aux défis, à rebondir. On dit, bon, ben OK, parfait. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera un autre jour aussi. Et on apprécie quand même, là, pour le moment, ce qui se vit.
C'est ça. Donc, cette capacité qu'on peut avoir à ressentir de la gratitude, à vivre chaque instant pleinement. Et puis aussi, on dit qu'il y a des études qui démontrent que ça pourrait contribuer à soulager la douleur chronique.
Exact, parce qu'en développant une meilleure compréhension entre la relation entre l'esprit et le corps, parce qu'il faut comprendre que quand tu es dans un état de pleine conscience et que tu éveilles tes sens, tu es connecté avec ton corps, mais tu te connectes avec ton esprit aussi. Donc, il y a des études qui ont démontré qu'on pouvait soulager la douleur chronique parce que ça nous amène à focusser sur d'autres aspects finalement que la douleur qu'on peut avoir.
C'est ça, c'est que finalement, quand on fait toujours la même routine, c'est qu'on ne s'ouvre pas à autre chose, on ne découvre pas nécessairement d'autres possibilités. On fait toujours, on a parlé de faire toujours le même chemin, là, mettons. Là. Quand on découvre, on s'en va quelque part, on prend un chemin qu'on ne connaît pas. Et puis quand on revient, c'est sûr, ça nous apparaît déjà moins long parce que finalement, notre cerveau est moins vigilant, pas besoin d'avoir la même vigilance. Mais c'est que si on emprunte différents chemins à chaque fois, c'est qu'on va découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages. Enfin, finalement, on n'aura pas cette même routine. Là. Finalement, on va découvrir autre chose.
On arrête d'être, Chantal, un robot, j'ai le goût de dire ça comme ça.
Ouais.
C'est que quand on est dans une routine, que le tout s'installe machinalement, c'est comme si on prend même plus conscience des gestes qu'on pose, de ce qui se présente à nous. Donc, en modifiant certaines choses, on redevient alerte avec nos sens. Ça nous amène à nous reconnecter avec nous au lieu de tomber dans le mode robot.
C'est ça. Puis ça peut être la routine, là, c'est... Là, on a parlé évidemment d'un chemin que l'on fait, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de dire le lundi, je fais mon ménage, le mardi, enfin, et ça vaut pour les repas, ça vaut pour ce que l'on mange. En fait, tu sais, il y a des gens qui sont extrêmement routiniers, qui font toujours les mêmes choses à la même heure.
Mais c'est ça. Et donc, là, l'idée, un des exercices que le monde peut commencer, que vous pouvez commencer à faire, c'est commencer par regarder vos petites habitudes. Aussi petites soient-elles, là, les petites habitudes quotidiennes qu'on a. Là, et là, on analyse qu'est-ce qu'on pourrait modifier là-dedans. L'idée, là, c'est pas de tout changer encore une fois. Mais tu sais, par exemple, comme tu le mentionnes, tu prends tous les jours ton café à ta table de cuisine. Essaye donc d'aller le prendre dans le salon ou sur le balcon. Donc, tu vois, Chantal, c'est pas une grosse habitude, un gros changement, c'est-à-dire, mais juste ce fait-là de se déplacer de place, un peu comme quand on change de route pour se rendre quelque part, là, ça va stimuler, oh, attends, j'avais peut-être pas vu ça, au niveau des odeurs, au niveau de l'environnement aussi, ce qui fait en sorte que tu gardes ton cerveau stimulé et alerte. Tu as l'habitude de lire ton journal, mais regarde, prendons le temps de discuter avec ta douce moitié. Là, vous allez peut-être découvrir des nouveaux sujets ensemble, hein?
Ben, c'est ça, exactement. Au lieu de toujours faire, de le lire peut-être seul ou enfin, c'est ça, de lire ton journal seul et puis bon, que ce soit toujours la même chose à tous les jours, ben là, au moins, tu t'ouvres à une autre activité déjà. Et puis aussi, j'imagine que le temps, ta perception du temps va changer.
ça, c'est évidemment parce que quand tu es dans le moment présent, tu vas avoir l'impression, dans le fond, que vu justement que tu t'éveilles, un peu comme quand on prend un nouveau chemin, on a tellement l'impression que le chemin est plus long. Là, c'est la même chose, on va avoir moins l'impression que le temps passe vite, hein, parce qu'on va rester connecté dans ce qu'on fait maintenant.
Hein? Exactement. Donc, c'est ça. Il faut écouter davantage tout ce qui est autour de nous, finalement. Alors, finalement, changer nos habitudes, ça peut vraiment nous faire vraiment apprécier un peu plus la vie, quoi.
Bien, exact. Et restez connectés à ce que vous ressentirez. Vibrez, dans le fond. Écoutez les nouveaux sons. En changeant cette petite habitude-là, vous allez voir, oh, attends, j'avais pas cette perspective-là. Vous prenez une marche, puis bifurquez, changez de chemin, allez dans un nouveau parc. Vous allez respirer des nouvelles odeurs. Vous allez apprécier des nouveaux paysages aussi. Donc, ça va vous connecter à la pleine conscience. Et c'est sûr qu'en se connectant à la pleine conscience, on reste dans le moment présent. On reste alerte et vigilant, et ça retarde des maladies dégénératives. Quoi de mieux, finalement?
C'est ça. Bon, évidemment, c'est sûr que là, on a parlé de gens qui avaient peut-être besoin d'un petit peu plus d'encadrement, de routine, des gens qui sont peut-être plus anxieux. Mais forcément, quand on change progressivement, peu à peu, ben, ça peut justement aider à chasser cette anxiété-là, puis finalement, en vivant le moment présent, puis en s'ouvrant à d'autres façons de faire, à s'ouvrant à la spontanéité, ben justement, on apprend aussi à être moins anxieux.
Bien oui, parce que on reste moins connecté à cette angoisse-là, là, tu sais. Donc, au lieu justement de juste écouter cette angoisse-là, cette anxiété-là, en s'ouvrant vers autre chose, ça va nous amener à découvrir, dans le fond, et à voir autrement, finalement, là, tu sais. Ça nous met d'autres lunettes, ça nous amène d'autres perspectives aussi.
C'est ça. Et puis là, bien évidemment, on parle de gens qui n'ont pas de problèmes de santé mentale, je veux dire, ou des gens qui n'ont pas, par exemple, c'est sûr que les gens qui vivent avec le spectre de l'autisme, bon, c'est des gens qui ont besoin souvent de cette même routine, ça c'est autre chose. Mais là, on parle vraiment de quelqu'un qui vieillit normalement, mais qui est quand même très routinier tous les jours, et puis donc il y a peut-être intérêt à s'ouvrir à une autre routine, ouais. À changer cette routine-là.
Il est important là, que chacun respecte son rythme et son besoin de routine. Il y en a, c'est vrai, qui vont être plus rigides dans leur routine. À ce moment-là, si tel est le cas et tu as vraiment besoin que ça se passe comme ça, parfait. Maintiens le cap sur la routine que tu es habitué de faire, mais prends juste conscience de ce que tu es en train de faire pour ne pas tomber juste dans le machinal, finalement. Là, t'sais?
Exact.
Donc, on veut faire... découvrir et s'éveiller à la vie, justement, là, tu sais. Donc, c'est pas tant de sortir de sa routine, c'est de la faire autrement ou de la voir autrement.
Et voilà. Donc, on pourrait avoir plusieurs routines, au fond. C'est ça. Alors, en conclusion, José.
Oui, j'ai trouvé une petite citation, là. J'aime bien ça, là, Chantal, finir avec des petites citations, comme tu le sais. Celle-là vient de Cheryl Richardson. Le changement d'habitude de vie n'est pas seulement un acte, c'est une attitude. C'est choisir de vivre chaque jour d'une manière qui honore votre bien-être.
Ah, ben voilà, c'est bien dit, ouais. Encore une fois. Ben, merci infiniment, José, et on va se retrouver la semaine dernière, vendredi prochain, pour une petite dernière chronique, eh oui.
Ben oui, tout à fait.
Alors, je te souhaite une bonne...
Toujours un plaisir, Chantal.
Ben moi aussi. Alors, je te souhaite une bonne fin de semaine et une bonne... Ben, enfin, bonne semaine à venir.
À toi aussi.
À vendredi.
Le temps danse sur un rythme effréné. La cadence, je ne la suis qu'à moitié. La tendance, ne pas lever le pied. En urgence, j'ai décroché. Déboussolé, à l'arrêt, mon horloge interne est cassée. Déraillée, trop loin du quai, mes aiguilles se perdent affolées. La carte mère a brûlé, saturée de la tête aux pieds. Comment bien redémarrer si tout le système a bugué? Ce monde ne marche plus. Dans le noir en manque d'amour, il court à contresens. Dans le vide après le temps, ce monde ne marche plus. brûlée, saturée de la tête aux pieds. Comment bien redémarrer si tout le système a bugué?
La chanson à contresens de Lucie Valentine.
Merci Mathieu Tessier. J'accueille à l'instant Stéphane Crête, acteur, auteur, enfin, on va tout décliner ça dans un instant. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, comment ça va?
Très, très, très bien. Je vous parle directement de Rimouski, alors je suis devant le fleuve, ça va
oh,
très bien.
Ben là, je comprends que ça va bien. Alors, on va être un petit peu avec vous en pensée, comme ça, devant le fleuve. Bon, dans un premier temps, juste dire aux gens que on vous verra, c'est pas tout de suite, parce que finalement, l'écriture n'est pas tout à fait terminée, là, mais dans une galaxie près de chez vous, on aura le troisième volet.
Enfin, hein? Depuis des années, tout le monde me demande, à peu près à chaque semaine, quand je raconte quelqu'un, on dit « Pis, il va se faire un troisième film ». Ben oui, ça sent bien.
Eh oui, on a entendu parler de Claude Legault, là, qui disait que finalement le scénario avançait à grands pas, et puis bon, après ça, ben, vous pourrez tourner. Et là, vous allez, évidemment, bon, on va vous retrouver un peu plus vieillissant, tout l'équipage.
Oui, tout à fait. C'est ce qui va être intéressant. Claude avait le désir de ne pas faire semblant que le temps avait passé, donc on va vraiment jouer aussi sur le fait que, ben, on a vieilli, que notre cher capitaine a les cheveux blancs, donc on va jouer avec ça aussi, ça va être intéressant.
Alors oui, alors c'est ça, donc on a bien hâte, bien sûr. Mais là, vous avez, bon, vous n'en êtes pas à votre première publication, bien au contraire, hein, vous avez publié « Bien faire et se tenir en joie ». Alors c'est un recueil, finalement, de textes que vous avez écrit quand même entre 1997 et 2022, je pense.
Oui, ça fait le bilan de près 25 ans d'écrits de toutes sortes là qui se retrouvent dans ce livre-là. Ouais.
Et dans toutes sortes de contextes, hein, parce que, bon, à la fois, vous êtes acteur de théâtre, auteur, chanteur, hein, vous avez fait partie du groupe Boom Ding Band. Oui. On vous a vu à la LNI, bien entendu. Vous avez pris la parole dans toutes sortes de circonstances. Bon, chroniqueur, conférencier, animateur de cabaret, vous enseignez, vous faites des formations. Bon, en tout cas, je vais essayer de pouvoir toucher à tout, mais donc, tous ces écrits, finalement, ils ont tous un contexte. D'abord, ils ont tous été publiés, entendus ou lus.
Oui, au moins une fois. Ça, c'était un peu le critère que je m'étais donné. Je me disais, bon, je ne suis certainement pas le seul à avoir ce qu'on appelle des fonds de tiroir, là, des choses qu'on a écrites, personne n'a jamais entendu parler, que jamais été lu. Je me suis dit, je ne veux pas m'en aller là-dedans. Je veux vraiment me mettre l'accent sur ce qui a déjà connu une vie publique, ne serait-ce qu'une seule fois, puis colliger tout ça au fil des 20 dernières années. Ouais.
Alors là, vous avez dû évidemment faire le choix de ces textes. J'imagine que ça n'a pas dû être facile. Et quand vous vous relisiez, est-ce que vous étiez toujours d'accord avec vous-même? Parce que, bon, ce sont des prises de position parfois, ce sont des opinions que peut-être que les opinions ont changé avec le temps aussi.
Oui, ben c'est ce qui est beau, c'est de voir comment on évolue, comment on se transforme, comment la société se transforme aussi, en voyant déjà des prises de parole que j'avais prises il y a 25 ans. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ben, c'est déjà daté un peu, cette prise de parole-là est plus nécessaire, ou cet éveil de conscience-là il a été fait collectivement. Fait que ça, je trouve ça intéressant de voir comment ça nous permettait de voir l'évolution de la société, mais aussi de voir ma propre évolution aussi. Effectivement, parfois, je me trouve un peu baveux, un peu arrogant, mais bon, c'est la sagesse qui parle maintenant.
Oui. Oui, c'est ça. Mais c'était un peu votre marque de commerce aussi, enfin. L'ironie, tout ça, ce côté un petit peu, comme vous dites, baveux. Mais à la fois, vous êtes rempli de contradictions. C'est tout et son contraire, au fond.
Exactement. Pour moi, c'est ce qui c'est ce que j'essaie de revendiquer aussi d'une certaine façon pour moi-même et pour les autres, de qu'on ne nous force pas à être dans une petite boîte, qu'on ne nous étiquette pas en disant « Ah, cette personne-là, elle est seulement drôle » ou « Cette personne-là est seulement engagée ». On a le droit de, ou en tout cas, moi, en tout cas, je revendique ce droit-là, de pouvoir être à la fois cynique et poétique, d'être humain et défaitiste. Donc, on a le droit d'être habité de toutes ces personnalités, ces parties de nous.
C'est vrai, tout à fait. Et c'est toute une vie en même temps, de toute façon. Alors, ça évolue, tout ça, nos émotions et tout. Mais en fait, donc, ce sont des textes bien assumés, même si parfois, il y a peut-être un petit écart avec ce que vous pensez aujourd'hui et ce que vous pensez à l'époque. Mais de toute façon, ça réfère à des événements où, bon, si par exemple, vous touchez à l'humour, vous parlez, bon, vous avez des prises de position par rapport à l'humour. Bon, à savoir que les humoristes veulent avant tout divertir, peut-être pas trop déranger. Vous êtes plus, vous voulez que ça bouscule, que ça brasse un peu. Et puis, bon, ça reste encore présent dans votre esprit.
Oui, je le dirais pas de la même façon que je le disais à cette époque-là. J'avais justement une façon un peu peut-être... revancharde ou bravade de nommer mes réflexions, mais je continue à croire que il y a de la place dans la société pour que l'humour soit porteur de changement, de réflexion, que ce soit vu aussi comme une arme à la limite de changement, de transformation sociale, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'était pas le cas à l'époque quand je l'écrivais. Puis encore là, aujourd'hui, on peut observer qu'il y a beaucoup d'humour qui est fait davantage pour justement nous divertir, nous changer les idées. Puis j'avais envie de pointer la possibilité que l'humour sert aussi comme de vecteur de changement ou de transformation sociale.
Tout à fait. Et bon, donc ces textes ont été présentés de façon chronologique. Alors, c'est sûr qu'on devine bien comme lecteur aussi que toute une évolution, parce qu'on voit vraiment... D'ailleurs, vous, tous les textes que vous publiez sont mis en contexte à la fin du texte. Hein? Alors, on sait que ça a été soit lu, soit publié dans telle circonstance, dans tel contexte. Alors, c'est sûr que nous-mêmes, on est à même de juger un petit peu que peut-être que, oui, c'est lié, bien sûr, au contexte social de l'époque.
Exactement. Oui, tout à fait.
Alors, c'est ça. Donc, des moments ce sont des moments qui vous ont marqué personnellement, des événements qui ont jalonné l'actualité, des réflexions sur le métier, votre métier, bien sûr, et puis des réflexions à tous les niveaux. Bon, là, on a parlé de l'humour, mais ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller dans le domaine autant politique. Enfin, c'est vraiment très vaste. Alors, c'est vraiment le fruit de tout cette réflexion. D'ailleurs, vous écrivez très bien en passant. Hein?
C'est gentil.
Non, mais c'est magnifique, votre écriture. C'est à la fois, non seulement au niveau de la réflexion, mais au niveau, c'est ça, du texte par lui-même.
Ben, c'est ce que j'essaie de privilégier à travers la sélection de textes que j'ai faite. Il y avait certains textes que je lisais, je me disais, bon, OK, c'était peut-être un peu moins brillant, un peu moins fort. Je les mettais de côté. Puis il y en a d'autres que je disais, bon, OK, je les regardais avec une certaine tendresse en me disant, bon, c'est pas extraordinaire, mais ça sert de jalon, ça marque le temps aussi. Donc, je les ai ajoutés au recueil. Puis il y en a d'autres que j'étais fier. Je me disais, waouh, ça, c'est bien. C'est beau travail. C'est important de pas toujours juste se taper sur la tête puis de juger, mais de prendre le temps aussi de reconnaître les bons coups, ça me semble important.
Exactement, oui. Et juste revenir au titre, quand même, ça peut intriguer, bien faire et se tenir en joie. Ça vient d'où? Je pense que vous vous êtes inspiré du philosophe Spinoza, hein?
Exactement, c'est une de ses citations et ça m'avait beaucoup inspiré, particulièrement à la période où c'était le titre d'un des textes que j'avais lu à la radio il y a quelques années, puis ça m'avait inspiré cette posture-là, je le voyais comme une éthique d'être, une façon d'être dans le monde en disant, ben, bien faire, Donc, de faire de notre mieux, mais aussi faire le bien, de sentir que nos bottines suivent les babines, comme on
ouais,
dit,
c'est
et puis d'agir dans le monde, mais de se tenir en joie aussi, que ça continue à être porteur et de pas être simplement dans soi la revendication épuisée, le militantisme amer ou la désinvolture cynique. Mais je me disais, se tenir en joie, c'est une posture politique aussi.
Donc, évidemment, il y a des chapitres et tout, mais enfin, pour reprendre, oui, c'est ça, l'expression de Spinoza, bien écoutez, je peux vous la lire parce que je l'ai notée.
Oui.
Ah, ça dit, « Tu ne vaux que par le bien que tu fais, que par le mal que tu t'interdis et sans autre bénéfice que la satisfaction de bien faire. » Alors voilà, c'est ça qui facilitait la.
De lire ça, oui,
ouais.
C'est beau.
Ben, c'est que là, ça m'intriguait. Alors je suis allée voir un petit peu plus en détail. Mais enfin, donc, c'est très intéressant tout ce parcours-là à tous les niveaux. Et puis, comme on dit, c'est parfois plus personnel. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose que pendant la pandémie, vous avez. En fait, il y a un texte qui parle. De cette période-là où vous êtes allé faire une retraite dans le noir. Et ça, ça m'a vraiment... J'ai trouvé ça très amusant.
Oui, mais je me disais, ce livre-là fait partie aussi d'un désir de me révéler d'une certaine façon, de parler autant de mes réflexions sociales, politiques, mes engagements, que ma dimension plus intime, plus spirituelle. Donc, j'ai choisi de partager ce texte-là qui relate une aventure que j'ai décidé de vivre dans mon parcours spirituel qui consiste à faire une retraite dans le noir absolu pendant 3 jours et 3 nuits. Donc, c'est une façon de faire le point d'une certaine façon, mais en enlevant cet élément-là qui est si précieux pour les voyants, c'est-à-dire la vue.
Oui, c'est ça. Puis en fait, je vais vous citer là. Vous dites, dans cette période sombre que nous traversons collectivement, la retraite dans le noir peut être une belle façon de prendre une distance du tourbillon dans lequel nous sommes plongés pour observer le monde et nous observer nous-mêmes avec une vision plus large, plus bienveillante et plus relative. Alors, c'est ça, c'est un texte que vous avez publié sur votre page Facebook, en fait, de Labo Crête.
Exactement, oui, c'est ça. C'est un et qui a été publié aussi sur le site de cet organisme-là qui organise des retraites dans le noir.
Bon, ben, parce que ça existe vraiment. Donc, on peut faire ça. On peut faire ça dans la vie. Et puis, bon, vous racontez aussi dans le livre, qu'à une certaine époque, aussi au niveau de l'écriture, vous êtes auteur, donc c'est important. Vous avez travaillé avec Didier Lucien, notamment, les émissions télé et tout. Enfin, évidemment, c'est riche, là, votre carrière. Et puis, je ne veux pas vous vieillir, mais quand même, vous racontez qu'il y a une époque où vous aviez plus de liberté dans l'écriture.
Oui, je pense qu'on peut l'observer collectivement où on est rendu dans une ère un peu plus polie, où la censure est plus présente, que ce soit sur les réseaux sociaux ou l'autocensure qu'on va vivre dans nos collectivités. Donc, il y avait une espèce de délinquance, une permission qui était plus vaste, plus large. On pouvait se permettre des prises de parole, des expériences aussi ou des audaces qui me semblent avoir été édulcorées un peu par l'usure du temps.
Oui, ouais, c'est ça. Vous citez ça, les gobelets à Radio-Canada, où on pouvait encore donner des coups de pied dans le derrière. Enfin, bon, oui. C'était très drôle. Mais bon, puis Fernando Arrabal, que vous avez approché pour... qui se retrouve, enfin, il signe une préface dans votre livre, mais qui se retrouve à la fin, finalement, je pense. Mais c'est ça, donc, c'est toute une affaire, ça aussi. C'est ce poète, romancier, dramaturge, cinéaste espagnol bien connu.
Oui, c'est ça. C'est un homme qui avait accepté de venir passer une semaine au Québec à l'époque où j'étais avec l'université de philosophie où on recevait des grands maîtres de folle sagesse. Et puis, il y a un livre qui relate un peu la correspondance que François Gour et lui ont eue. Puis, c'est moi qui ai écrit la préface de ce livre-là. Donc, je trouvais que c'était comme une belle manière de renvoyer la balle en disant, ben, est-ce que à votre tour, vous écririez une préface pour moi? Puis, comme c'est le fondateur du mouvement Panique qui est intéressé par le désordre et par la surprise, j'ai proposé que sa préface se retrouve en post-face. C'était comme une espèce d'hommage panique lui servir sa propre médecine, comme on dit.
C'est ça, donc. Et puis, vous avez été chanteur en plus. Vous étiez Larry Bouledingue de Boom Ding Band et puis vous avez évidemment popularisé le Père Noël. C'est un Québécois. Alors, c'est ça, donc. On pourrait mettre effectivement votre livre dans le prochain Bonne Noël. Pour le prochain Noël, effectivement.
Oui, ça pourrait être une belle idée.
Eh oui, alors c'est ça, c'est un personnage fort intéressant. Écoutez, c'est très riche, tout votre livre, là. On pourrait en parler longuement. Vous êtes aussi un ritualiste, C'est-à-dire que, en fait, là, il faudrait que les gens aillent sur Internet et puis voir votre travail que vous faites aussi, votre rapport à la mort. Vous êtes un célébrant. Mmh. Enfin, c'est vraiment très particulier. Et puis, il y a d'ailleurs une belle entrevue avec Patrick Lagacé là-dessus. Alors, j'invite les gens à découvrir parce qu'on n'a plus le temps. Merci, Stéphane Crête.
Ça me fait plaisir de vous échanger avec vous.
Ça a été un plaisir, moi aussi. Alors, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Et puis, c'est ça. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne journée. N'oubliez pas ce livre « Bien faire et se tenir en joie » aux éditions Somme Toute de Stéphane Crête. C'est à lire absolument, très intéressant. Et puis, on se retrouve lundi pour notre dernière semaine de la semaine. Alors, l'émission « Aime l'été », ici Chantal Lavoie. Au revoir et bonne fin de semaine à tous.